Tous, à toutes, tout d'abord merci aux anciens pour la confiance que vous m'accordez et qui me permet de vous servir. J'espère que vous allez bien. Ça va bien? Bon, allez, sans transition, on va faire une lecture dans l'évangile selon Luc, chapitre 12, verset à partir du verset 22. On est paré? On décolle? Allez. Jésus ajouta, en s'adressant aux disciples, « Ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude qu'allons-nous manger pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? La vie est bien plus importante que la nourriture et le corps plus précieux que le vêtement. Regardez ces corbeaux, Matthieu 6 dira, ces petits oiseaux. Jamais ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner, ils n'ont ni cave ni grenier pour amasser leurs provisions et pourtant Dieu les nourrit. » Ne valez-vous pas bien plus que ces oiseaux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence, ne fût-ce que de quelques minutes? Si déjà vous n'avez pas de pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous tourmentez-vous pour les autres? Observez les lys sauvages, regardez comment se forment leurs fleurs. Ils poussent sans se fatiguer à filer de la laine ou à tisser des habits. Et pourtant, je vous assure que le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'une d'elles. Si Dieu habille avec tant d'élégance cette plante des champs qui est là aujourd'hui et demain déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de votre habillement? Ah, votre foi est encore bien petite. Bannissez donc de votre vie les soucis au sujet du manger et du boire. Ne vous tourmentez pas l'esprit par ces vaines questions. Par ces vaines inquiétudes. Ce sont les gens de ce monde qui se préoccupent de tout cela. Les pensées de ceux qui ne connaissent pas Dieu gravitent sans cesse autour de ces choses. C'est le but de leur vie. Mais vous, vous avez un Père au ciel et il sait bien que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première et tout le reste vous sera donné en plus. Vous n'êtes qu'un petit troupeau, mais n'ayez pas peur. Il a plu à votre Père dans sa bienveillance de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, distribuez-le aux pauvres. Constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra le toucher, ni mythe, ni ver ne peuvent l'entamer. Amassez-vous un capital qui ne vous fera jamais défaut, car soyez-en certains, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il y a des passages dans la parole de Dieu, dans la Bible, que l'on comprend de manière intellectuelle. Mais il y a des passages qui prennent une autre dimension lorsque nous les vivons. Pour moi, Luc chapitre 12 et Matthieu chapitre 6 font partie de cela. Depuis le début de ma vie chrétienne, Dieu m'a appris et nous a appris, même en tant que couple, en tant que mari et femme, à lui faire confiance dans tous les domaines, mais surtout en ce qui concerne les finances, la sécurité matérielle et même l'avenir. Alors on ne prétend pas avoir tout appris, mais une chose est certaine, Dieu pourvoit toujours. Amen. Dieu pourvoit toujours. Pas toujours à l'avance, pas toujours de la manière dont là on l'a imaginé, mais toujours parfaitement. Dans ce passage et dans Matthieu chapitre 6, qui est beaucoup plus complet, qui se développe beaucoup plus autour du pouvoir de l'argent, Jésus aborde un sujet qui nous touche tous, celui de l'inquiétude. Et si Jésus prend le temps de soulever ce questionnement, cette thématique, c'est parce qu'il sait pertinemment l'impact que cela a sur nous, le fait de s'inquiéter. Sinon, le sujet n'aurait pas été abordé. Alors il existe, je le crois, j'en suis convaincu et j'espère que vous l'êtes aussi, à chacun de nous un potentiel de foi, un potentiel de zèle, un potentiel de passion, de talent, mais qui se trouve souvent paralysé par la peur, par l'inquiétude, et qui nous empêche au final de nous concentrer sur l'essentiel et d'avancer. Et le Seigneur désire, je le crois, j'en suis convaincu, désire nous attirer, en tout cas attirer notre regard, notre attention, afin que nos cœurs ne soient plus et ne soient pas accaparés par les soucis de la vie, qui sont légitimes. Mais il veut libérer nos cœurs de toute crainte, de toute inquiétude, celles qui nous envahissent. Et bien évidemment, il y a tellement de sujets d'inquiétude humainement compréhensibles dans un monde rempli de peur, d'incertitude, d'instabilité. D'ailleurs, si l'on veut avoir un peu moins peur, il suffit de couper la télévision et les informations. Mais il y a des peurs qui nous envahissent. La peur pour nos enfants, la peur pour notre couple, la peur de la maladie, la peur de l'accident, les difficultés financières, la peur de la retraite parfois, la peur de l'échec, la peur du manque, de la solitude, de l'engagement, la peur de perdre son travail, la peur de ne plus pouvoir être en mesure de payer son loyer ou de payer son crédit. Combien de personnes savent de quoi je suis en train de parler ce matin ? Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Ce matin, j'aimerais vous partager, vous rappeler les trois raisons principales pour lesquelles Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter pour les choses matérielles, de ne pas nous inquiéter pour les finances, de ne pas nous inquiéter pour le lendemain. La première raison, et vous allez voir, c'est assez simple, mais parfois l'évangile est tellement simple que nous en oublions que c'est simple. Il n'y a pas de choses élaborées, mais la première raison, c'est que les inquiétudes nous éloignent de l'essentiel. Les inquiétudes nous détournent du vrai sens de la vie, du vrai sens de notre vie. Ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude qu'allons-nous manger pour vivre, qu'allons-nous mettre pour être habillés. La vie est bien plus importante que la nourriture et le corps plus précieux que le vêtement. Jésus nous rappelle cela, la vie c'est bien plus qu'être des consommateurs, bien plus que de manger, travailler, payer ses factures, dormir et recommencer. Dieu nous a créés pour une mission particulière. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Dieu nous a créés pour servir dans son royaume. Dieu nous a créés pour porter du fruit. Est-ce que quelqu'un pourrait dire amen ? Et lorsque les inquiétudes occupent toute la place ou nous préoccupent à un tel point qu'elles nous font perdre en fin de compte l'objet de notre vie, l'objet de notre appel, l'objet de notre salut. Parce que chacun de nous a reçu au moins un don. Et que personne ne puisse dire ce matin, « Ah non, moi je ne sais rien faire, je ne suis rien, je... » Non, non, parce que vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. 1 Corinthiens nous rappelle que, « Or à chacun a été donnée la manifestation de l'Esprit. » Éphésiens 2 nous rappelle que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors que personne ne puisse se dire, « Non, je n'ai aucun don, aucun talent, je n'ai aucune mission. » Parce que ce serait faire mentir la parole de Dieu. Alors c'est vrai, parfois il faut se questionner, il faut demander, il faut chercher, il faut prier. Mais parfois il faut être pragmatique. Quand Moïse est devant le buisson ardent, il trouve toutes les bonnes raisons pour lesquelles il ne doit pas servir, il ne peut pas servir, qu'il n'est pas à la hauteur. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta main ? Ah, un bâton. Ben, serre-toi-en. Et parfois nous cherchons à droite, à gauche, nous cherchons à regarder le verre à moitié vide alors qu'il suffit de regarder le verre à moitié plein. Non pas ce que nous n'avons pas, mais déjà regardons ce que nous avons. Et nous avons tous. Mais ce qui est certain, c'est que l'inquiétude rétrécit notre vision. Lorsque nous subissons un choc, un stress très intense, on appelle ça la vision tunnel. C'est-à-dire que tout ce qui est aux abords va se rétrécir, va s'obscurcir pour se focaliser sur une seule chose. Et c'est ce que font les inquiétudes. Elles rétrécissent notre vision. Elle nous enferme dans les factures, les problèmes, les échéances, les scénarios du lendemain, alors que Dieu veut nous amener à regarder en haut, à lui. L'inquiétude a le même effet. Tunnel, ça rétrécit. En novembre 1995, ça faisait quelques mois que j'étais chrétien, à l'époque... J'étais jeune, j'étais beau, j'étais svelte. Maintenant, je suis juste beau. Bravo, bravo. J'étais un jeune garçon assez inquiet et même angoissé quant à la question des finances. Et c'est évident que le Seigneur travaille avec nous d'une manière différente. David n'a pas pu porter l'armure de Saül. Pourquoi ? Parce que c'était l'expérience et il avait une autre expérience. Mais les principes du royaume de Dieu restent les mêmes. C'est juste que le Seigneur travaille avec pédagogie d'une manière différente, dans un apprentissage différent. Mais les principes restent les mêmes. Et donc, nous sommes en novembre 1995. Le Seigneur travaille énormément mon cœur. Et je me rends compte que sur mon compte bancaire, il me reste l'équivalent de 500 francs, hein, 80 euros. Je n'ai pas beaucoup, je n'ai quasiment pas d'économie de côté. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, 500 francs, c'était quand même une somme plus importante qu'aujourd'hui, 80 euros. Mais ça n'empêche, je suis content que le Seigneur ait commencé à me tester avec cela. Quand je vois Abraham à qui Dieu a demandé à son fils, je me dis, waouh, 80 euros, waouh, c'est pas mal, j'ai échappé à beaucoup. Non, mais je suis au travail, je garde le parking de la clinique Rochebelle sur Alès. Et alors que je suis sur le parking avec le chien, là, en train de tourner, je m'arrête, je réfléchis, puis j'ai comme une petite voix qui vient dans mon cœur. Alors c'est vrai qu'on se parle à soi-même parfois, ça vous arrive? Je me suis dit peut-être il faut que j'aille consulter, on ne sait jamais, waouh. Et là cette petite voix me dit, Eric, il te reste 80 euros sur ton compte bancaire pour finir le mois, et bien ces 80 euros, tu vas les donner à telle personne parce qu'il en a besoin. Ouf, ça parle d'argent, ouf. Va des rétros, enfin, moi c'était, j'ai dit non, oh là, mon pauvre garçon, qu'est-ce que tu es en train de penser, de dire, oh là, tu pars vraiment en vrille. Et cette petite voix continue, et comme si c'était ma conscience, mais j'ai compris après que cela n'était pas ma conscience. Et cette petite voix me dit, je vais te prouver que c'est moi qui te parle, tu vas aller chez ta mère, et ta mère va te donner un billet de 500 francs, un Pascal, hein, c'était Blaise Pascal qui était à l'effigie du billet. Certains les brûlaient sur les plateaux de télévision, mais bon, c'est Serge Gainsbourg. Hein. Et me voilà quelques jours après partir chez ma mère. Et voilà, donc on se voit, tout se passe bien. Et en partant, je suis tellement content parce qu'elle ne m'a pas dit, tiens, voilà, je suis content. Et quand je vais pour passer la porte, elle me dit, ah Eric, attends, j'ai une enveloppe à te laisser parce que j'avais fait quelque chose pour ta sœur, pour son anniversaire. Tiens, une enveloppe. Bon, je pars. Je monte dans l'ascenseur et vite j'ouvre et là il y avait un Pascal. Et là je me suis rendu compte que ouais, le Seigneur était en train de déboulonner vraiment le sentiment d'inquiétude, vraiment le sentiment de... Il voulait vraiment que je lui fasse confiance. Alors je peux vous raconter énormément d'expériences que nous avons faites, je peux vous raconter énormément d'échecs que nous avons vécus, parce qu'à travers les échecs nous apprenons aussi. Mais le Seigneur est allé crescendo, ça a commencé par 80, alors j'ai donné, j'avais reçu, voilà. Là, c'est vrai que ce n'était pas trop de la foi, parce que la foi, c'est faire sans voir. Mais là, le Seigneur était tellement bon avec moi, il m'a dit, écoute, allez, je vais te montrer, tu vas voir, avant que tu donnes, je vais te donner. Voilà, il y a eu des moments dans nos vies où il a fallu faire sans voir. Et c'est dur. C'est très, très, très difficile. Mais, effectivement, j'ai compris ce jour-là, à partir de ce jour-là, que si l'argent devenait mon maître, si le matérialisme devenait mon maître, eh bien, le Seigneur ne pourrait pas m'utiliser et aller à droite à gauche parce que je serais tellement enclavé, tellement pris, tellement lié à cela que cela deviendrait un problème. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter, c'est qu'aucun souci ne peut ajouter un seul instant à notre existence. Les inquiétudes n'augmentent pas la durée de notre vie. D'ailleurs, qui de vous, à force de soucis, peut prolonger son existence, ne fût-ce que de quelques minutes. En fait, l'inquiétude fait le contraire. Au lieu d'améliorer la vie, ça détruit. Ça détruit. L'inquiétude nous rend malade. Je regardais certaines études et j'ai trouvé une étude qui dit que 80% des gens, 80% des choses dont les gens s'inquiètent n'arrivent jamais. 80% des choses dont les gens s'inquiètent n'arrive jamais. Autrement dit, le cerveau a tendance à surestimer le danger futur, d'imaginer spontanément le pire scénario. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les inquiétudes sont inutiles, parce que certaines peuvent nous pousser à agir avec prudence. Mais les études montrent que notre cerveau produit beaucoup plus souvent de scénarios négatifs que la réalité n'en réalise. 10% de notre temps, nous nous inquiétons pour notre santé, alors qu'il est prouvé justement que l'inquiétude détériore notre santé. Alors il nous faut de la sagesse, mais combien de fois avons-nous été inquiets à ne pas endormir, hein, vous connaissez ça, vous réveillez à 3 heures du matin et avoir, et ce n'est pas pour prier, parce que votre pensée est déjà sur l'objet de votre souci, de votre problème. Cette inquiétude qui est là, qui vous empêche de dormir avant, un entretien d'embauche, avant un oral, avant un examen, avant un rendez-vous avec votre patron, avant un rendez-vous pour gérer un conflit ou pour régler une situation. Mais ce qui est vrai, c'est que le cerveau élabore tellement de scénarios. Parce qu'avant même le rendez-vous, on s'est déjà imaginé les choses. Mais on ne s'imagine pas les bonnes choses. Ah ben non, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et on rumine et on ne trouve plus le sommeil. La troisième chose, c'est que les inquiétudes ne changent en rien la situation. Ça a l'air tellement simple, mais pourtant c'est vrai. Et parfois, il faut revenir à la simplicité de l'Évangile qui nous dit que, ben, en fin de compte, l'inquiétude ne change pas la situation. On aura beau faire des pieds, des mains, cela ne changera rien à l'instant T. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas le pouvoir de changer. Mais je dis que notre inquiétude ne pourra pas faire changer les choses. Et c'est là que Jésus veut réorienter notre regard en disant, face aux défis quotidiens, ne regarde pas ton problème, regarde au Père. On se souvient de Ève dans le jardin d'Éden, parce qu'il faut se rendre compte que nous sommes dans une bataille spirituelle. Le diable est venu voir Ève en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit ? Il voulait mettre le doute sur la bonté de Dieu, le doute sur sa capacité. Et au lieu de se focaliser sur les 99 bonnes choses, il lui a fait se focaliser sur une seule chose. Dieu a-t-il réellement dit ? Et l'ennemi veut nous faire douter de la bienveillance de Dieu à notre égard. Oh, inquiète-toi, ça sera plus efficace que de faire confiance à Dieu. Mais tu ne vas pas y arriver. Et nous connaissons tous ce sentiment de mal à l'aise. Mais Jésus nous dit, si déjà vous n'avez pas de pouvoir sur cette petite chose, pourquoi vous tourmentez-vous pour les autres ? Personne ne peut changer ces situations par ses inquiétudes. Mais Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Jésus ne dit pas seulement « ne vous inquiétez pas », il explique pourquoi. Votre Père sait que vous en avez besoin. Quelle phrase extraordinaire. Il ne dit pas « votre Créateur », « votre Maître ». Il dit « votre Père ». Et il nous dit « avant même que vous formuliez vos demandes, votre Père sait que vous en avez besoin ». Et là, il y a une clé du royaume de Dieu, c'est de retrouver la confiance comme les corbeaux, de retrouver la confiance et la foi comme les petits oiseaux. Regardez ces corbeaux, jamais ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner, ils n'ont ni cave ni grenier pour amasser leurs provisions et pourtant Dieu les nourrit. Nous avons chez nous un poulailler avec des poules, des oies et tous les oiseaux du quartier qui ne sont pourtant pas invités. Et ils ne se préoccupent pas de savoir si c'est une propriété privée ou pas. Ils viennent et ils mangent. Ils ne se préoccupent pas, ils ne viennent pas te dire « s'il te plaît, tu peux... » Non, ils viennent et ils se servent et ils repartent. Avoir la foi des corbeaux, avoir la foi des petits oiseaux, retrouver la confiance dans le Seigneur, dans le quotidien, pas juste pour l'avenir, dans le quotidien, chaque jour. Et Jésus attire l'attention de ses disciples et la nôtre sur les corbeaux, non pas parce que les corbeaux, les oiseaux sont paresseux, ils n'ont qu'à aller bosser. Non, absolument pas. Non pas parce qu'ils restent toute la journée dans leur nid, en attendant que cela tombe du ciel. Mais pourquoi ? Parce qu'ils vivent sans anxiété. Ils ne se posent pas de questions. Il y aura toujours à manger. Ils accomplissent leur part, mais leur existence dépend de Dieu. Voilà la différence. Et souvent, nous avons tendance à croire, à penser que notre salaire, ce que nous recevons chaque mois, c'est notre source. Que notre entreprise, c'est notre source. Que notre compte bancaire, c'est notre source. Non, la source, c'est Dieu. La source, c'est notre Père. Le reste n'est qu'un moyen que Dieu utilise. Et quand nous comprenons, quand nous reconnaissons que Dieu, que notre Père est la source, alors l'argent et le matériel ne nous contrôlent plus. La peur ne nous contrôle plus, ou en tout cas moins. La peur de manquer, la peur de perdre. Dans 1 Roi chapitre 17, nous voyons Élie qui est conduit en pleine sécheresse et pour être près d'un torrent, pour être approvisionné en eau et en pain de manière surnaturelle. Et la source, en tout cas, cela se tarit, mais il fallait que Élie ait la foi en un Dieu qui pourvoit, comme celui qui approvisionne. Alors ce canal d'approvisionnement est terminé et Dieu envoie Élie auprès d'une veuve. Pas auprès de quelqu'un de très riche qui aurait pu lui faire un chèque ou un virement. Non, auprès d'une veuve qui a autant besoin. Dieu a nourri Élie par les corbeaux, puis il a utilisé une veuve. Les moyens ont changé, mais la source est restée la même. Dieu. Et quand nous comprenons ce principe, waouh! Et si Jésus traite cela entre l'inquiétude et le pouvoir que l'argent peut avoir et les possessions, c'est parce que ça peut être un très gros morceau dans nos vies. Une très grosse source de stress et vraiment très difficile. Et c'est vrai que je parlais de manière ironique sur 80 euros. Mais pour beaucoup de personnes, 10 euros, c'est beaucoup. Et ça peut être une source vraiment de grand stress. Nous qui sommes parents, nous savons très bien que nos enfants n'ont pas besoin de nous demander ou de réclamer à manger. Ils ne se posent pas de questions, ils s'assoient, ils mangent. Nous sommes leurs parents, nous avons accepté cette responsabilité. Et notre devoir est de pourvoir à leurs besoins, quitte à se priver soi-même. Alors si nous agissons ainsi envers nos enfants, notre papa dans le ciel ne va-t-il pas tout faire pour prendre soin de nous? Va-t-il nous abandonner? Jésus nous rappelle que malgré la beauté de la nature, des animaux, nous avons aux yeux de notre Père plus de valeur que la création. Waouh! Alors pourquoi s'inquiéter? Il y a ce matin, très certainement, des personnes qui sont venues et qui portent un poids qu'on ne voit pas. Vous êtes venus, vous souriez, vous avez dit bonjour, comment ça va? Ça va? Vous avez serré la main, vous avez fait des bisous. Vous avez loué le Seigneur, mais à l'intérieur, vous êtes épuisé. Épuisé de porter seul ce qui vous inquiète. Peut-être est-ce votre travail, peut-être vos finances, peut-être votre santé, peut-être votre couple, peut-être vos enfants. Peut-être c'est l'avenir qui vous fait peur. Et depuis des semaines, des mois et peut-être même des années, vous tournez ces choses dans votre tête encore et encore. Mais écoutez ce que Jésus vous rappelle ce matin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il ne dit pas votre Père découvrira peut-être un jour la situation. Ou votre Père ne s'intéressera à vous que lorsque vous aurez la foi ou lorsque vous aurez tout compris. Non, votre Père sait. Il sait ce qui nous empêche de dormir. Il sait ce qui nous fait pleurer quand personne ne nous voit. Il sait ce qui nous fait peur. Il sait ce que vous n'avez même plus la force d'expliquer aux autres. Et c'est vrai, parfois c'est pour ça qu'on dit « tout va bien ». Parce qu'on n'a plus la force même d'expliquer aux autres. Parce qu'on est à bout de force. Mais votre Père sait. Jésus nous dit, n'aie pas peur, petit troupeau. Quel contraste extraordinaire. Nous voyons nos problèmes, Jésus nous montre le Père. Nous voyons nos limites, Jésus nous montre sa fidélité. Nous voyons le manque, Jésus nous montre sa provision. Nous voyons demain, mais Jésus nous rappelle qu'il est là dès aujourd'hui. Alors ce matin, ce n'est plus la question, as-tu des sujets d'inquiétude ? Parce que si on est vrai, on en a tous. Tous. La vraie question, c'est entre les mains de qui tu vas les laisser. Parce qu'à force de porter tes inquiétudes, c'est elles qui vont finir par te porter. À force de regarder à nos problèmes, ils deviennent plus grands même que Dieu. À force de vouloir tout contrôler, nous perdons la paix que Dieu veut nous donner. Philippiens 4, 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Et les deux textes ne sont pas contradictoires. L'un qui dit « Votre Père sait » et celui-ci « Demandez ». Faites connaître, ginosko, l'intimité la plus grande qu'il peut y avoir dans le mariage entre un homme et son épouse, entre un mari et sa femme. Et en fin de compte, quand on s'approche de Dieu pour lui parler de nos problèmes, de nos soucis, de nos fardeaux, de nos inquiétudes, on ne vient pas l'informer, il sait déjà. Mais on vient se décharger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On vient faire un échange, on lui donne. Et tant que ça ne part pas, ben on continue à revenir. On développe, parce que le secret, il est là, dans le secret de notre chambre. Et peut-être aujourd'hui est-il temps de déposer ce fardeau, pas demain, pas quand les situations seront réglées. Le déposer au pied du Père, lui dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, je n'arrive pas à gérer tout, je ne vois pas de solution, je n'ai pas de solution. Mais là, aujourd'hui, je vais choisir de te faire confiance. » Ça a l'air humainement impensable, mais pourtant, je vais placer ma confiance parce que tu me promets dans ta parole que si je place ma confiance en toi, alors le Père qui sait ce dont j'ai besoin va me le donner. Waouh ! Parce qu'au bout du compte, la paix ne vient pas quand toutes les circonstances changent. La paix vient quand notre confiance change d'endroit. Je ne mets plus ma confiance en moi-même ou dans ce qui m'entoure, je mets ma confiance dans le Seigneur. La paix vient quand nous cessons de regarder uniquement nos ressources pour regarder au Père. La paix vient lorsque nous réalisons que celui qui nourrit les corbeaux, qui habille les lys des champs, qui n'a jamais abandonné ses enfants, prend aussi soin de nous. Alors, comme le dit la parole de Dieu, cherchons premièrement son royaume et sa justice. Et laissons-le gérer. Et toute chose nous sera donnée, donc laissons-le gérer le reste. Je ne connais peut-être pas mon avenir, mais je connais mon Père. On ne connaît peut-être pas notre avenir, mais on connaît notre Père. Et notre Père sait exactement ce dont nous avons besoin. Amen. Est-ce que je pourrais vous inviter à vous lever, à fermer les yeux? Que ce soit ici, que ce soit chez vous, je veux vous inviter vraiment à déposer vos inquiétudes. Et si le poids ne part pas, à réitérer, à revenir, tant que le fardeau, en tout cas, s'en aille. Ça ne veut pas dire que la situation va changer, mais ça veut dire que votre cœur va changer et va vous donner, en fin de compte, la paix et la force de traverser. Seigneur, je veux te prier ce matin pour chacun d'entre nous. On te rend grâce, on te rend gloire parce que ta parole est véritable. Comme il a été dit, ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Ce matin, l'effet qui est recherché, c'est celui de la confiance, celui de la foi en toi. Tu es l'objet de notre vie, tu es l'objet de nos pensées, tu es l'objet de nos cœurs. Tu es l'objet de notre destinée. Seigneur, ce matin, peut-être malgré le poids difficile que nous pouvons avoir sur les inquiétudes, sur les craintes, sur notre présence, sur notre famille, sur nos finances, sur notre avenir, sur tellement de sujets, Seigneur, nous voulons faire le choix de te faire confiance. De changer, vraiment de changer notre lieu de confiance et de poser, de placer notre confiance en toi, qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. L'ennemi essaie de nous attirer loin de toi, de nous faire baisser la tête. Il nous ment, il nous détourne de toi, il nous détourne de ton royaume. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons faire le choix de placer notre foi, notre confiance en toi. Je te prie pour ceux et celles qui ce matin ont le cœur agité, ont le cœur troublé, ont le cœur qui n'est pas en paix. Seigneur, tu viens à leur aide, Seigneur. Viens au secours de notre foi commune. Parfois, c'est tellement difficile, c'est tellement intense. Mais Seigneur, merci parce que tu demeures fidèle. Et je te prie pour que mes frères et sœurs qui passent par des moments difficiles puissent expérimenter ta bienveillance, ta fidélité, combien tu es présent. Parce que oui, c'est vrai, tu parles encore aujourd'hui, tu agis encore aujourd'hui. Alors Seigneur, nous repartons avec ta paix, avec ta parole, avec ton message, avec l'assurance que tu ne nous abandonnes jamais, avec l'assurance que tu veux utiliser chacun d'entre nous et que nous ne devons pas passer à côté de notre vie, de la vie que tu as préparée pour nous. Seigneur, nous ne voulons pas nous faire voler, dépouiller. Nous voulons racheter le temps et reprendre le terrain qui nous a été pris. Et ce matin, Seigneur, ça suffit. Nous ne voulons plus laisser de terrain et l'avantage à l'ennemi parce que tu es de notre côté et que nous avons un avenir glorieux entre tes mains, même s'il y a des combats, même si parfois c'est difficile. Mais il vaut mieux vivre dans la difficulté avec toi que sans toi. Alors, Seigneur, on te rend grâce et que ce matin, tu souffles par ton esprit vraiment un esprit de force, d'amour, de sagesse, parce que ta parole nous rappelle que ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur ou de crainte que tu nous as donné. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la ressentir, mais cela veut dire que tu nous demandes aussi de saisir par la foi tes promesses, ton courage pour aller jusqu'au bout. Alors sois béni, Seigneur. Amen.